Moi, je vais être sympa avec les deux. Donc, une question pour les deux qui les invite à reprendre chacun leur dernier point, parce qu'on est resté sur notre fin. Pour Patrice, simplement, seulement si ça t'intéresse, en fait, de rajouter à la question du champ de la bienfaisance, si tu l'envisages différemment de la façon dont Christian Tovaloff parle de la nébuleuse réformatrice, parce que, enfin voilà, ça m'intéresse de voir si tu le construis différemment, justement, à propos de construction d'objets. Voilà. Et pour Christophe, la question de. Donc, si les réformateurs ont déjà posé la question que les sociologues vont reposer, est-ce que les sociologues le reconstruisent différemment ou ils se laissent complètement imposer les questions des réformateurs.
Disons que la question est venue à partir d'une démarche de recherche qui fait que c'est assez éloigné finalement des préoccupations de Christian Tovaloff et ça porte pas en plus sur la même période exactement. Mais ma question est venue du fait que je voyais en acte à travers l'analyse de la société protectrice de l'enfance des formes d'organisation de alors on peut dire d'agents appartenant aux classes dominantes, de toutes sortes de classes dominantes, à différents niveaux de la structure du pays, c'est-à-dire dans la capitale, dans des villes régionales, jusque dans les bourgades de province. Et m'est venue l'idée de caractériser ces agents comme étant faisant partie de la bonne société. Donc bonne société, ça m'a quand même amené à essayer de sortir un peu de du sens commun de bonne société, qui a un caractère descriptif. Hein, c'est au fond des gens qui ont un certain statut social et en même temps une dénomination qui peut être soit laudative, c'est des gens bien, soit péjorative, hein, la bonne société. Bon. Alors, ce que j'ai essayé de voir, alors en me référant en particulier à Norbert Elias dans son travail sur les Allemands, c'était de penser au fond à la fois les transformations des composantes des classes dominantes et le fait qu'on peut parler de bonne société, je dirais, à partir de la révolution bourgeoise en France. C'est pour la différencier de la société de cour. D'une révolution française qui amène au pouvoir des groupes sociaux nouveaux. Bon. Et donc ça amène une complexification et un élargissement considérable des composantes des classes dominantes. Que cet élargissement des classes dominantes va de pair avec des conflits, alors qu'ils sont liés aux transformations économiques, aux luttes idéologiques et politiques, bon, disons à la naissance d'un champ politique. Et il me semblait que la bonne société, c'était au fond une opération idéologique, hein, consistant au fond à mettre de l'unité là où il y avait des oppositions, des conflits, et que cette unité, elle se construisait dans une démarcation avec les classes populaires. Faisaient partie de la bonne société tous ceux qui étaient en position de mettre à distance les classes populaires, que ça allait de pair avec, on dirait, d'une façon de vivre, un ethos, des formes de contrôle du corps, des formes de respect, bon, tout ça. Mais que une des caractéristiques de cette bonne société, c'était que pour faire partie de la bonne société, il faut pas seulement avoir un capital économique ou social, mais qu'il faut aussi montrer une forme de désintéressement, il faut cultiver la vertu, cultiver le désintéressement, cultiver le gratuit et donc s'engager dans des œuvres caritatives, créer des œuvres caritatives, des œuvres de bienfaisance et au fond remplir des fonctions sociales d'encadrement des classes populaires, je dirais des au sens large. Mais quand on regarde l'évolution du nombre des associations charitables, de la diversité des associations charitables tout au long du XIXe siècle, on voit effectivement qu'on a une période à partir de 1830 où ça se multiplie et où ça commence à couvrir les infirmes, les enfants. Alors les écoles font partie. Les écoles communales sont considérées comme des œuvres de bienfaisance, les hôpitaux, toutes les structures pour, je ne sais pas quoi, les sourds-muets, les aveugles, les infirmes, plus des fonctions, alors je dirais, de christianisation à travers des patronages. On occupe les jeunes des classes, voilà, du patronage et on transmet des valeurs chrétiennes. Donc j'ai commencé à essayer de construire un champ avec ces divisions, ces polarités, c'est-à-dire une bienfaisance héritée au fond de l'Église et une bienfaisance laïque. Avec alors les deux utilisent, enfin, les deux ayant comme agent des bénévoles, mais certaines œuvres étant totalement liées à l'Église et où le travail devait être un travail qui reposait sur des valeurs chrétiennes, alors que les autres pouvaient avoir une conception beaucoup plus laïque au sens de où on l'entend aujourd'hui. Par exemple, la Société protectrice de l'enfance, qui regroupait à la fois des catholiques, des juifs, des protestants, des francs-maçons, des anticléricaux, des conservateurs, des ultra-monarchistes, enfin des monarchistes ultra, jusque à des fourriéristes, c'est-à-dire à des formes de républicains, socialistes. Bon. Donc, je dirais, la naissance d'associations qui vont être porteuses de causes nationales et à caractère universel et qui, pour ce faire, s'ouvre à l'ensemble. Bon, voilà. Donc je vais pas monopoliser la parole. Donc il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ces questions-là. Mais c'est de le traiter en même temps comme un champ, c'est-à-dire voir les oppositions, voir les conditions dans lesquelles on peut occuper des positions dans cette bonne société, et surtout, alors ça m'a amené à re-réfléchir sur la médecine. Voir comment ce champ de la bienfaisance, il est à l'interface avec le champ médical, et que le champ médical se construit en partie en s'arrachant, en développant de nouvelles fonctions qui ne sont pas des fonctions de bienfaisance, mais à partir d'institutions qui, au départ, sont des institutions de bienfaisance, comme l'hôpital. Alors comment, finalement, il y a une forme de, un travail d'autonomisation, mais qui n'est pas achevé, parce que l'hôpital continue à remplir ses fonctions de bienfaisance. Que ça pourrait se poser de la même façon pour l'école. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire finalement de mettre les écoles communales de frères ou laïcs dans le champ de la bienfaisance? Alors, on pourrait dire que c'est peut-être une opération, c'est un coup de force symbolique de faire ça. N'empêche que vous lisez les bottins. Hein, ça fait partie, les bottins d'œuvres de bienfaisance, c'est inscrit dedans. Donc, c'était une manière un peu de repenser, au fond, dans des états dans lequel tout ce qui est de l'ordre à la fois des dispositifs publics, du développement des agents de l'État est encore très faible, comment on est dans une période où des fonctions qui aujourd'hui sont remplies par des travailleurs sociaux, sont en fait à l'époque remplies par des agents de cette bonne société, c'est-à-dire des membres de la bourgeoisie, qui interviennent, je dirais, sans avoir, et ça va être une de leurs revendications, sans avoir une autorité légale pour intervenir. Si je prends mes patronages, on rentre dans le domicile des nourrices. Donc c'est un acte d'intrusion qui ne peut se faire que sur la force, je dirais, d'imposition symbolique de la dame bien qui rentre, qui entraîne des réactions, avec une demande de l'État, que l'État légitime l'intervention de ces, soit des médecins, soit de ces dames de bienfaisance. Voilà. Donc c'est, en même temps, là, comment ça contribue à une forme de construction de l'État. Et comment l'État, au moins en tous les cas en France, au fond, va absorber et intégrer ces formes de bienfaisance privée. Les professionnalistes, enfin, ça va correspondre aussi à des processus de professionnalisation ou en tous les cas de constitution de métier. Voilà, c'est très schématiquement, très rapidement dit ce à quoi ça m'a amené en partant de cette malheureuse loi Rousseff.
Alors, pour répondre, la réponse est compliquée parce que, alors d'abord, les réformateurs, ça supposerait de regarder les universités qui sont au centre aussi des réformes ou les liens avec les réformateurs. Donc, je pense John Hopkins à la fin du 19e siècle, Cornell en lien avec Columbia dans les années 50, Harvard dans les années 80, qui sont à chaque fois des universités dominantes dans l'espace des universités. Le fait que dans certaines des enquêtes, les médecins sont partie prenante. L'enquête de Merton, on dit c'est Merton, mais c'est Reeder qui est médecin et qui est celui qui a mis en place le cursus, le nouveau programme de soins et de formation des étudiants et qui a écrit énormément sur cette réforme. C'est présent à la fois dans le texte, dans le livre de Merton, dont je me demande qui l'a lu, parce que finalement, on voit la place très très forte des réformateurs dans le livre. On préfère dire Merton, fonctionnaliste, fonctionnalisme du meilleur, on fabrique un médecin type, et puis voilà, l'idéologie médicale type. Mais en fin de compte, le livre fait transparaître le poids énorme du projet réformateur. Et dans le projet réformateur, qu'est-ce qu'il impose aux sociologues, projet réformateur? Pas forcément leurs résultats, pas tout, mais peut-être sur quoi ils doivent porter leur attention. Pas les résultats, parce qu'ils vont observer de l'adaptation de l'étudiant en médecine aux conditions de travail, pas le fait que c'est difficile au début de faire un diagnostic, pas le fait qu'il y a de l'incertitude, pas le fait qu'il y a de l'angoisse, pas le fait que on a les deux radios à comparer, on voit rien, il faut aller réveiller le chef de service, on n'ose pas, etc. Bon, ce que tout étudiant en médecine va raconter quand on l'interviewe. Donc je ne remets pas ça en cause, je ne remets pas la description de l'expérience de l'étudiant. Mais sauf que je pense que c'est ces projets réformateurs qui ont conduit les étudiants, les sociologues, à regarder plutôt le côté premier cycle, le dégrossissage de l'étudiant en médecine et pas par le haut la logique des spécialités et la logique de la division du champ médical. Et donc, à occulter complètement le fait que l'enjeu derrière, c'est la reproduction de la structure du champ médical. Et donc, regardant seulement le bas et les expériences de dégrossissage de l'étudiant en médecine, forcément, ils sont portés à dire la médecine, c'est une profession, quoi. Surtout si c'est pour être médecin au Kansas. Donc, à adopter le vocabulaire des professions. Non pas d'un champ dans lequel... Et c'est explicite chez Fredson, qui est très important, pas pour sociologie de la fabrication des médecins, il s'y est pas intéressé, mais... C'est un de ceux qui fait basculer, qui a assez de pouvoir symbolique, vers basculer dans les années 60, à la fin des années 70, et l'interrogation de la formation à l'exercice, le travail. Et ce qui fait que les autres vont le déplorer. Enfin, ceux qui... René Fox, qui était une élève de Parsons, qui a travaillé avec Merton, qui toute sa vie travaille sur la formation des médecins, elle voit ça comme... Elle dit, d'un seul coup, on ne s'est plus intéressé à la formation. D'un seul coup, l'objet a été dévalué. Dorénavant, c'était l'exercice, etc. Et ce qui fait que Fredson lui-même remet pas en cause les thèses de Merton sur la formation, mais dit finalement la formation a peu d'influence sur l'exercice. Donc regardons l'exercice, regardons les types d'exercices, etc. Deuxième chose sur laquelle, premier thème, c'est se centrer plutôt sur les premiers cycles, passage sciences fondamentales cliniques, l'opposition entre les deux. Il y a seulement une anthropologue qui dans les années 80, une de celles qui travaille sur Harvard, qui dit, mais il y a de la résistance au programme. Il y a les réformateurs qui disent, dorénavant, plus de cours magistraux, DTD, autour de cas, puis ça va être des généralistes qui vont expliquer et pas des spécialistes. Il y a la résistance des spécialistes. Et quand les étudiants, ils passent des années précliniques aux années cliniques, les autres disent, fini la rigolade, la médecine, c'est la clinique. Et oubliez ce qu'on vous a dit, les foutaises sur la psychosociologie du patient. Donc elle décrit presque l'échec d'une réforme. Mais en même temps, je ne suis pas pour abandonner l'idée qu'il faut étudier ce thème, parce que c'est un thème récurrent à partir des années 50, le patient. Pas avant, il me semble pas avant. Et moi, je le relie assez fortement aux thèses de Patrice sur... la réforme de la conception du patient et l'homo medicus, c'est-à-dire pourquoi tout d'un coup on a besoin du patient, pourquoi tout d'un coup il faut se préoccuper du patient, pas parce que les médecins deviennent humanistes, mais qu'est-ce qui fait que dans le travail médical on va avoir besoin d'un acteur rationnel de sa santé, pour parler comme Patrice. Et je pense qu'on en voit la trace là. Après, avec les maladies chroniques, etc., etc. Je pense qu'on en voit la trace là. Mais aucun des sociologues qui ont travaillé sur ces cursus ne le voit. Ne voit que ça a un effet sur les batailles internes pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait des patients? Il faut vous centrer sur les patients. Quelle relation entre sciences fondamentales et cliniques? Et puis, troisième thème, plus flou dans chez ces réformateurs, le type d'étudiant que l'on veut promouvoir. Donc le côté l'habitus social et l'habitus professionnel, qui est une question importante à mes yeux, parce que si vous vous souvenez de Brett Hughes, des dilemmes et contradictions de statut, les sociologues de l'époque disaient oui, mais quand on va voir un médecin, on s'attend à ce qu'il soit des classes supérieures, blanc et masculin, etc. Et donc je pense que c'est en jeu aussi dans la réforme. Voilà.
Je voulais juste te dire, bon, hier plusieurs fois on a dit construction d'objets, c'est très compliqué, dire de quoi, en quoi c'est fait. Moi je trouve qu'aujourd'hui, l'exposé de Patrice nous montre, moi ce que j'appellerais le sens pratique de la recherche, c'est-à-dire à la fois un sens pratique très instruit, mais je tire un peu le drap à moi, au sens d'un sens incorporé, c'est-à-dire qui peut être à la fois très instruit et très pratique. Quand tu dis, bon, je lis Relais, ça me titille, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que c'est que sentir qu'au début, moi j'ai trouvé ça très intéressant, c'est pas évident. Donc à la fois, il faut être très, comme tu dis, t'es parti du background pour faire tout ça. Mais en même temps, c'est un sens finalement très, très pratique. Et on en discutera peut-être pendant le repas, mais je ne peux pas m'empêcher de poser à Christophe la question. Tu as fait deux parties, une partie sur ta propre formation et la deuxième partie où tu as commencé à poser des questions au système, que font les systèmes d'enseignement en termes de mutilation. Et je voulais savoir comment la socio t'avait mutilé.
Oui, on peut dire que c'est le principe de ma manière de lire les textes des sociologues que je cite. C'est le principe de la lecture. C'est-à-dire, on m'a sûrement mutilé, mais en même temps, j'ai lu beaucoup de choses et hors de la sociologie. C'est pour ça que je parlais des historiens en disant, tiens, ils ont vu des choses que n'ont pas vues les sociologues. Par exemple, c'est eux qui insistent sur le problème, c'est le premier cycle. Dans les années 30, ils ne sont pas obsédés par la formation des spécialistes, ils sont obsédés par le premier cycle, la formation de généralistes, quoi. Donc, les réformateurs des écoles. Donc, c'est les étudiants qui le voient, ce n'est pas les sociologues. Donc, j'ai toujours lu très largement en termes de discipline et de travaux. Et justement, je pense qu'il ne faut pas lire la littérature spécialisée, trop étroitement spécialisée, sur son objet apparent, où il faut la lire, mais après avoir lu le reste, quoi. Enfin, je serais d'accord avec Patrice sur ce genre, quoi. Parce qu'à ce moment-là, on voit ce qu'elle n'a pas vu. Et donc, oui, effectivement, moi, ça me fait apparaître les sociologues un peu idiots. Mais bon, je suis sociologue, mais je ne pense pas être trop idiot, et vous non plus. Donc, mais quand même, ils sont en retard du fait de la faiblesse de la culture historique, du fait, je pense, de l'absence de construction dans l'espace complet. Ils sont en retard de plusieurs guerres sur les réformateurs eux-mêmes. Et pour terminer, je dirais que si on dit sociologie des professions, on va chercher des revues qui parlent de sociologie des professions. Mais il y a tout un domaine qui s'appelle Sociology of Medical Education et qui est gouverné par les médecins et dont les articles sont plutôt psychosociologiques. Mais vous allez avoir le retraitement des analyses de Baker, etc., etc., qui produit bien plus de recherches sur comment on fabrique les médecins que les sociologues des professions ou d'ailleurs. Voilà. Bon.